Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nina Hartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1923, Le prophète de Khalil Gibran est un long poème en prose devenu un classique mondial de la littérature spirituelle. Le livre met en scène Al-Mustapha, un sage sur le point de quitter la ville d'Orphalèse après de longues années d'exil. Avant son départ, les habitants l'interrogent sur les grandes questions de l'existence. En 26 discours brefs et denses, il répond par des maximes et des images, moins pour imposer une doctrine que pour éveiller une compréhension intérieure. Amour, mariage, enfant, travail, liberté, joie, peine, don, amitié, beauté, prière, raison et passion, et mort figure parmi les thèmes abordés. Le ton est à la fois poétique, philosophique et mystique, marqué par une spiritualité ouverte qui parle autant aux croyants qu'aux non-croyants. L'ambition du texte est de relier l'expérience quotidienne à une quête de sens en invitant chaque lecteur à se connaître et à se transformer. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une sagesse en forme de questions et réponses, la structure de Le Prophète est essentielle pour comprendre sa portée. Chaque chapitre naît d'une demande collective adressée à Al-Mustapha. Comme si la communauté rassemblait ses préoccupations les plus universelles avant de laisser partir celui qui la guidait. Ce dispositif simple crée un effet de proximité, la parole du sage répond à des interrogations concrètes, mais elle les conduit vers une profondeur symbolique. Gibran ne cherche pas à prouver, démontrer ou organiser un système. Il propose une sagesse d'orientation, faite de formules mémorables et d'images qui ouvrent la réflexion. Le livre se lit donc comme un ensemble de méditations autonomes, on peut le parcourir d'un trait, ou y revenir par fragments selon un besoin du moment. Cette forme explique aussi pourquoi l'ouvrage est souvent reçu comme initiatique. Plutôt que d'enseigner des règles, il vise à déplacer le regard du lecteur, en lui faisant percevoir dans l'ordinaire un enjeu spirituel. La parole d'Al-Mustapha agit comme un miroir. Elle renvoie chacun à sa propre expérience et l'invite à découvrir une vérité vécue plutôt qu'une vérité imposée. Deuxièmement, l'amour comme force de transformation. Parmi les thèmes les plus marquants du livre, l'amour occupe une place centrale, non comme simple sentiment, mais comme puissance qui façonne l'être. Gibran le présente comme une énergie qui élève et qui éprouve, capable de conduire vers une joie plus vaste, mais aussi d'exposer à la blessure. Cette vision refuse l'idéalisation facile aimée dans Le Prophète, n'est pas posséder ni se rassurer, c'est accepter un mouvement qui dépasse l'ego. L'amour apparaît ainsi comme une école intérieure. Il met en lumière nos attachements, nos peurs et nos attentes, et invite à les dépasser pour rejoindre une relation plus libre. Dans les passages consacrés au couple et au mariage, l'idée dominante est l'équilibre entre union et espace se rejoindre sans se confondre. La relation est conçue comme un lieu où chacun peut croître, à condition de ne pas réduire l'autre à une fonction. Cette approche fait résonner une spiritualité très accessible, elle parle de la vie affective, mais renvoie à une éthique de la maturité. L'amour devient un chemin où la profondeur se mesure moins à l'intensité qu'à la capacité d'ouverture, de patience et de vérité. Troisièmement, liberté intérieure et responsabilité de soi, Le Prophète développe une conception de la liberté qui dépasse la seule indépendance extérieure. Gibran souligne que l'on peut être entravé par des chaînes invisibles, la peur du jugement, le désir de contrôle, l'attachement aux certitudes ou la fuite de soi. La vraie liberté se joue alors dans un travail intérieur, fait de lucidité et d'acceptation. Cette perspective conduit à une responsabilité personnelle exigeante, nul ne peut vivre à la place d'un autre, et nul ne peut être sauvé par une simple obéissance. La parole d'Al-Mustapha incite plutôt à découvrir ce qui, en soi, demeure plus vaste que les contraintes immédiates. Cette idée se prolonge dans une vision nuance de la loi et de la morale. Le texte n'encourage ni la transgression pour elle-même, ni la soumission mécanique. Il propose un discernement qui consiste à reconnaître l'intention et l'élan vital derrière les règles. Ainsi, la liberté n'est pas un caprice, mais une capacité de se gouverner avec justesse, en ce sens. La sagesse de Gibran rejoint des traditions spirituelles variées, elle valorise l'intériorité, la vigilance envers soi, et la cohérence entre ce que l'on comprend et ce que l'on vit. Quatrièmement, travail, don et dignité du quotidien, le livre accorde une place importante aux réalités ordinaires, notamment le travail et le don. Gibran ne traite pas le quotidien comme un domaine inférieur au spirituel. Au contraire, il suggère que la manière de travailler, de donner et de servir révèle la qualité d'âme. Le travail est présenté comme une participation au monde, une façon d'inscrire son énergie dans une œuvre qui dépasse l'intérêt immédiat. Il peut devenir source de joie lorsqu'il est relié à un sens, et non réduit à une contrainte vide. De même, le don n'est pas seulement un geste matériel. L'accent porte sur l'attitude donnée de soi, donnée avec discernement, sans humiliation ni orgueil. Cette approche refuse la morale de façade. Elle déplace la question de ce que l'on fait vers la manière de le faire. Le prophète propose ainsi une spiritualité incarnée, attentive aux relations concrètes et à la vie collective. Cette dimension explique l'attrait durable du texte. Il parle d'élévation, mais sans quitter le sol. Il rappelle que la transformation intérieure se vérifie dans des actes simples, répétés, où se tissent la dignité, la générosité et la présence. En dernier lieu, joie, peine et mortalité comme horizon de sens, Gibran aborde la souffrance et la mort avec une tonalité qui combine gravité et ouverture. La peine n'est pas niée ni traitée comme une faute. Elle est comprise comme une expérience qui élargit la capacité de sentir et de comprendre, et qui peut préparer une joie plus profonde. Cette lecture n'est pas une consolation facile, car elle invite à traverser plutôt qu'à fuir. Elle propose de regarder la douleur comme un passage qui travaille l'être, à condition de ne pas s'y enfermer. La mort, elle aussi, est abordée moins comme un scandale que comme un terme naturel, inscrit dans la continuité de la vie. Le texte suggère une perspective spirituelle. Oh, l'existence humaine ne se réduit pas à ses limites visibles. Sans imposer un credo, Gibran ouvre un espace de méditation qu'est ce qui en nous demeure quand les formes changent. Cette manière d'unir joie et peine, présence et finitude, donne au livre une force particulière. Elle rejoint l'expérience commune aimer, agir, perdre, recommencer. En ramenant ces réalités à une signification intérieure, le prophète offre une sagesse qui ne promet pas l'absence d'épreuves, mais une possibilité de croissance au cœur, même des épreuves. En conclusion, le prophète s'adresse à toute personne en quête de sens, qu'elle appartienne à une tradition religieuse ou qu'elle se situe en dehors de toute croyance instituée. Sa force tient à son langage universel et à sa forme brève, chaque discours peut accompagner une étape de vie, un deuil, un engagement, une décision affective, ou simplement un moment de questionnement. Le lecteur en retire un bénéfice surtout intellectuel et intérieure clarification des priorités. Approfondissement de la relation à soi et aux autres, et capacité à penser l'existence sans cynisme ni rigidité. Il ne s'agit pas d'un manuel méthodologique avec des exercices, mais d'un texte de méditation qui agit par résonance. Dans le champ des livres de sagesse, il se distingue par l'équilibre entre simplicité et densité poétique. Là-haut, certains écrits spirituels deviennent dogmatiques, Gibran privilégie la suggestion, l'image et l'élan. Là où d'autres textes philosophiques restent abstraits, il parle du couple, des enfants, du travail, de la douleur et de la mort avec une attention concrète. Son impact durable vient de cette alliance rare, une vision élevée, ancrée dans la vie quotidienne, qui invite moins à croire qu'à voir autrement et à vivre avec plus de profondeur. Si vous souhaitez soutenir Khalil Gibran, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.